Et ce que l'État promeut activement, soit directement, soit par la médiation d'ONG, financées, par exemple, dans le cas européen, par l'Union européenne, hein, qui est évidemment une des grandes institutions qui promeut la théorie du genre dans le monde, notamment en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie, etc. Un des enjeux ici, évidemment, pour l'État, c'est de... de supprimer dans la tête des individus tout ce qui pourrait empêcher leur créativité, tout ce qui pourrait empêcher de considérer leur corps comme un matériau malléable, leur désir sexuel, leur pulsion sexuelle comme un matériau malléable, à transformer, à agencer comme ils l'entendent. Oui. Et ça, évidemment, c'est une pierre d'attente très très forte dans beaucoup de représentations culturelles, parce que faire de sa vie une œuvre d'art, ça paraît être quelque chose de tout à fait noble et attirant. Vous voyez ? C'est vrai, faire de sa vie une œuvre d'art, ça veut dire privilégier justement la créativité, l'originalité, sa singularité, et tout ce qui justement va apparaître comme un modèle fondé sur une conception universelle, un donné naturel, va apparaître comme éminemment rabat-joie, anti-créative. Oui. Avec toujours cette idée que, évidemment, vous voyez l'importance rhétorique des images qui jouent, le côté, justement, est un déténoir, détouffoir de la conception patriarcale qui a été promue par le code Napoléon en 1800 et qui est malheureusement encore promue par l'Église catholique aujourd'hui ou par le monde musulman qui, sous ce rapport-là, apparaissent comme d'accord dans les grandes conférences pour critiquer la théorie du genre. Et donc là, voyez le modèle rhétorique, hein, la créativité des possibles, la créativité de la liberté individuelle contre une sorte de carcan obligatoire qui empêche l'expression de sa singularité. Alors évidemment, hein, quand vous présentez ça comme ça dans les représentations sociales et dans les mœurs, il n'y a pas photo. Mais ça, c'est un des ressorts de l'extraordinaire déploiement de la théorie du genre aujourd'hui. Et en quelques décennies, pourquoi ça s'est déployé comme ça ? Parce que ça rejoint, et c'est ça qu'il faudra qu'on travaille un peu plus tard, ça rejoint... D'abord, il y a une présentation rhétorique très, très valorisante, et puis ça rejoint certaines aspirations du cœur humain. Vous voyez ? Certaines aspirations du cœur humain. Qui ont su être captées autrement par cette doctrine. Vous voyez ? Mais ce qui veut dire pour nous qu'il y a un enjeu très important. Vous voyez ? Parce qu'évidemment, quand vous lisez de près la théologie du corps de Jean-Paul II, vous n'avez pas l'impression que c'est une sorte de carcan qui vous tombe dessus, comme ça. Et c'est, vous voyez ? Mais voyez toute l'importance de la pédagogie ici, toute l'importance de la redécouverte de l'intérieur, de l'articulation entre l'inclination naturelle au bonheur et les actes que je pose, et les choix que je pose, notamment sur ces sujets. Vous voyez ? J'allais dire, là, il y a du travail à faire, aussi bien pour se former que pour ensuite arriver à rendre audible et aimable ce qui est éminemment aimable. Puisque l'enjeu ultime, c'est quand même le bonheur humain. Voyez. Mais il y a une sorte de déficit rhétorique et donc aussi politique qui, en fait, ne cesse de croître aujourd'hui dans les représentations. C'est pour ça qu'on a l'impression parfois d'être devant une sorte de bulldozer ou de raz-de-marée médiatique, parce que ça rentre en résonance avec toutes sortes de choses qui ont déjà été validées dans la tête des gens ou qu'ils considèrent comme étant des biens essentiels. Oui. Il y avait une autre question ? Non ? Ça va ?
Non, mais je trouve que la liberté en soi, dans cette tolérance, c'est super attirant. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup trop loin. Enfin, mais on sent quand même quand on parle avec des gens qui vivent comme ça, très tolérants, qui ont un malaise énorme, mais ils n'arrivent pas à trouver.
Ben oui, justement, ça, ça va être un des enjeux. Ah non, non, justement. Ben, d'où l'importance d'arriver déjà à décrypter les présupposés en amont, et à partir de là, effectivement se dire, enfin, entre nous, de deux choses une, soit la nature humaine existe, et si, elle est, si on a pu la saisir à une certaine époque, bah, elle continue à exister aujourd'hui. Mais si la nature humaine a disparu aujourd'hui, c'est qu'elle n'a jamais existé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que soit on considère que y a une inclination naturelle dans le corps humain et un désir profond de l'être humain. Et dans ce cas-là, même lorsque je n'arrive pas à vivre dans cette optique, parce que j'ai telle ou telle blessure, parce que j'ai pris tel ou tel mode de vie, en fait, ça continue à se présenter, d'où le malaise dont tu parlais. Donc il y a encore un décalage. Mais effectivement, ça permet de souligner ici que, on pourrait dire, la base arrière existentielle de la théorie du genre, c'est une manière de vivre qui, peu à peu, crée chez celui qui vit comme ça des dispositions. Et il essaye de reconstruire le monde humain à partir de ce qu'il vit, forcément. C'est-à-dire que, comment dire, quand vous avez Judith Butler, par exemple, dont on va reparler, évidemment, elle est lesbienne. Bon, si vous êtes une lesbienne non intellectuelle, vous pouvez dire, bon, de toute façon, il y a toutes sortes de conceptions, peu importe, moi, je m'en fous complètement, etc. Mais si vous êtes une intellectuelle et animée justement d'une capacité à analyser et d'une colère justement contre ce qui a pu si souvent vous faire souffrir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peu à peu essayer de, à partir de votre expérience existentielle, essayer de voir la totalité du monde humain, en tout cas sur ces sujets, à partir de votre propre expérience. Et donc vous allez peu à peu élaborer, ce qu'on va étudier, une conception dans laquelle l'aspect central va être votre propre manière de vivre. Voyez. Et donc, et dans ce cas-là, en fait, il n'y a même plus possibilité d'honorer ce décalage. Parce que justement, le décalage ici, il ne va plus être vu, et le malaise, le soi-disant malaise, il ne va plus être vu, ou alors s'il est vu, il va être totalement perçu comme étant causé par le modèle social qui, à mon insu, continue à pourrir ma vie dans ma tête, etc., dont peu à peu, je dois me libérer. Et c'est là où on voit que l'être humain, c'est vrai, quand j'ai dit plusieurs fois, l'être humain, il est, dans le modèle de peu à peu de la théorie du genre, il y a une sorte d'indétermination. Mais en fait, pour Aristote, pour reprendre ce que je disais au début de cette matinée, pour Aristote, l'être humain aussi, il est relativement indéterminé. C'est-à-dire que l'être humain, si l'être humain est libre, c'est que c'est par nos actes que peu à peu nous allons nous réaliser. C'est pas comme ça que je deviens heureux ou que je me réalise. C'est par des choix, des actes, par tâtonnement, discernement, parfois je me trompe, et puis bon, l'acquisition des vertus, des dispositions, tout ça, ça prend beaucoup de temps. L'éducation est importante. Donc, pour Aristote, les inclinations vers des buts, ce n'est pas des déterminismes automatiques, parce que sinon, il n'y aurait plus de vie morale. Hein, on serait réglé par nos instincts comme les animaux. Donc pour Aristote aussi, il y a une grande indétermination du monde humain. Mais cette indétermination, et ça me paraît être au cœur de l'enjeu entre nature et art, ce que je disais tout à l'heure, cette indétermination, elle n'est pas totale. C'est-à-dire qu'il y a dans le cœur humain des aspirations à des biens, qui ont à des activités, qui effectivement ont une consistance et ont une objectivité. Et notamment dans le corps sexué, il y a cette inclination vers la communion des personnes. Mais, évidemment, ces inclinations, elles ne vont pouvoir être peu à peu comprises que dans la mesure où elles sont peu à peu actualisées. Et là, bah évidemment, toutes les dispositions sociales, toute l'éducation et toutes les blessures et les pathologies qui peuvent être vécues à ce moment-là vont être autant de court-circuitage, si je puis dire, de ces inclinations, qui à un moment vont pouvoir les rendre totalement opaques et incompréhensibles. Et en fait, ce qu'on va voir cet après-midi, c'est que toute la théorie du genre part de ces blessures et de ces pathologies, et en fait perçoivent toute la nature humaine dans sa sexualité à partir de ça. Par des biais différents, hein, parce qu'on va voir que c'est pas que la question de l'homosexualité. Mais il y a... c'est en partant de l'exception ou en partant du cas différent, mais en refusant son caractère différent et particulier ou exceptionnel, que peu à peu, on va être obligé de réouvrir d'autres dimensions. Et ça, je pense que là, il y a toute une réflexion pédagogique pour nous à faire, mais pour comprendre comment on peut penser des choses pareilles. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, on devient schizo. On va dire, mais si c'est si naturel que ça, alors comment c'est possible que les gens pensent différemment ? Bah, parce que justement, l'être humain est relativement indéterminé. Mais je dis bien relativement. Oui. Bon, on s'arrête là et on reprend ça tout à l'heure.